Bonjour, alors ce mercredi, je vous fais un podcast au sujet des pièges, en tout cas ce que je crois être des pièges à éviter sur LinkedIn, même si ça part évidemment des questions qui m'ont été posées, je pense qu'il y a vraiment des risques. La première question à ce sujet-là, c'est de savoir s'il y a lieu de mettre son CV en ligne. Alors bon, pour moi, un CV, c'est un contenu assez strict, assez froid. Je vois pas trop l'intérêt de le mettre tel quel en ligne sur LinkedIn. Je pense qu'il y a lieu de faire davantage. Soit on utilise LinkedIn de manière assez neutre, soit on l'utilise de manière assez personnalisée, mais mettre son CV simplement et le copier-coller, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est même difficilement possible, et même en lien peut-être éventuellement sur un site spécialisé si on a la recherche d'un emploi, mais à ce moment-là on va utiliser LinkedIn pour complémenter cette recherche. C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs qui sont sur LinkedIn et des recruteurs qui sont sur les plateformes de CV en ligne qu'on va pouvoir exploiter parallèlement, et du coup ce sera deux cordes au même arc et on peut faire un lien éventuellement. Par contre, mettre son CV juste pour dire que le CV est disponible, c'est comme mettre son CV sur son site web alors qu'on est déjà actif, je vois pas trop l'intérêt. Après, ça reste une question de choix, mais moi personnellement je le ferai pas. Je pense que ça va à l'encontre en fait finalement de l'esprit du réseau social. Le but en fait, c'est pas de recevoir des informations informelles, c'est de montrer justement une différence, montrer nos qualités et embellir un petit peu cette image que forcément notre CV, lui dans sa nature, ne va pas nécessairement l'embellir. Après, ça dépend encore comment on a écrit son CV, mais vraiment, je pense que c'est important de rester dans l'esprit de LinkedIn. Alors justement, à propos d'embellir, c'est aussi une question qui m'a été posée. Y a-t-il un risque à embellir ses expériences? Oui, il y a un risque. C'est un risque assez important. En fait, tôt ou tard, ça peut apparaître. C'est que si on embellit ses expériences, qu'on tourne les choses de manière un petit peu mensongère, y a des gens qui nous connaissent forcément sur LinkedIn. C'est un réseau ouvert, c'est un réseau public. Donc tôt ou tard, en fait, ça peut se savoir. Et le jour où ça se sait, ça va jouer contre nous forcément. Donc c'est vraiment le cadavre dans le placard. Je pense qu'il vaut mieux pas jouer avec ça. Au contraire, être le plus clair possible sur la réalité, et éventuellement si on souhaite ne pas mettre en avant certaines informations, à ce moment-là on n'en parle pas. C'est encore le plus simple. Par contre, embellir ou créer des fausses informations en se disant qu'on a travaillé pour tel type de personne ou qu'on a fait tel type d'activité, etc., ça non, surtout pas. C'est le gros piège à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Tôt ou tard, ça nous expose à la figure. Donc ça, vraiment, je déconseille. Ensuite, le rythme, la question du rythme est posée aussi pour pouvoir entretenir un réseau sur LinkedIn. Alors pour moi, c'est très simple, ça dépend toujours de l'objectif. Le rythme, en tout cas pour moi, idéalement, ce serait quotidiennement, si on veut faire le moins d'efforts possible pour pouvoir maintenir son réseau à une certaine température, on va dire. C'est-à-dire que si on veut activer son réseau, il s'agit qu'il soit tiède pour pouvoir l'activer rapidement et obtenir une réaction à chaud. Par contre, si notre réseau est froid, ça veut dire qu'on l'a pas activé, qu'on l'a pas entretenu, qu'on n'est pas en lien régulier avec les gens, qu'on partage pas de contenu, qu'on n'est pas en train d'échanger des mails ou créer des nouvelles opportunités, à ce moment-là, forcément, le jour où on va avoir besoin de ce réseau, ça va être difficile de l'activer, ça va prendre plus de temps, et donc passer du froid au chaud va prendre beaucoup plus d'énergie que passer du tiède au chaud. Et donc, je pense que là, il s'agit de définir un rythme qu'on est prêt à consacrer sur LinkedIn, quotidiennement ou éventuellement sur un plan hebdomadaire. Mais par contre, le faire une fois par mois, c'est déjà pas assez. En tout cas, c'est trop passif. Et en termes de contenu, il y a aussi des possibilités de partage, il y a des partages, des commentaires, il y a des échanges dans des groupes de discussion, etc., où on peut poser des questions et activer ce réseau. Ça vaut la peine d'être actif là-dessus, de répondre aux gens quand on peut et de poser des questions quand on en a, pourquoi pas. Et puis participer à des groupes, suivre des gens, etc., montrer qu'on est actif plutôt que simplement avoir un profil de base sans aucune information. Alors évidemment, on peut encore aller plus loin, on peut demander, faire des recommandations, etc. Chacun fait en fonction de ce qu'il veut. Les recommandations, ça peut faire bien, et en même temps ça peut être aussi un arrangement entre potes. Donc moi personnellement, je suis pas hyper fan. Maintenant, il y a aussi les recommandations par rapport à nos compétences, etc. Oui, on peut jouer à ça. Je suis pas convaincu que ce soit hyper important, mais ça peut effectivement jouer en notre faveur, en tout cas d'en avoir quelques-unes, et pas nécessairement des centaines, parce que ça fait vraiment douteux. Je trouve, après c'est mon avis. Le piège en fait, c'est que plus on cherche à prouver et plus on inspire tout sauf la confiance en fait. Je pense que si on n'a pas grand chose à prouver, qu'on fait les choses naturellement, simplement, de manière authentique, on a des chances de se rapprocher de cette authenticité. Le simple fait de chercher à être authentique, justement, réduit cette authenticité, donc autant pas aller plus loin. Si on commence à exploiter davantage les outils que propose LinkedIn, à se faire des endorsements à tout va, à avoir des milliers de recommandations pour tel type d'activité, à avoir des gens qui nous écrivent des tartines pour décrire l'expérience qu'ils ont eue avec nous, etc., et qu'on fait pareil, je pense que ça dénature un un petit peu la véracité des choses, parce qu'à un moment ça fait trop, c'est limite trop beau pour être vrai, et ça ressemble à des arrangements entre potes. Après c'est mon point de vue, hein. Chacun voit les choses comme il l'entend, mais pour moi c'est un piège à éviter. Si on n'a vraiment pas, si on en a, c'est très bien, il en faut pas des centaines de milliers, loin de là, peut-être quelques dizaines ça suffira. Et puis à partir de là, si ça peut se faire sur un échange spontané, c'est encore mieux. Moi je me souviens un jour j'ai demandé à certaines personnes avec qui je m'entendais bien de faire un partage de compétences, et finalement en fait ce qui se passe, un partage d'endorsement sur les compétences, et ce qui se passe finalement c'est qu'on s'arrange mutuellement pour aller là où ça nous arrange. Donc au final, tu veux que je clique sur quoi, etc. Donc ça fait quand même arrangement entre potes. Alors c'est bien, ça montre aussi qu'on a des amis, qu'on a des personnes qui sont avec nous, etc. Ça c'est important, mais il faut pas exagérer non plus. À un moment ça devient un peu louche, et donc c'est pas vraiment le but. Ça pour moi sont des grands pièges à éviter. Après il y a aussi les adresses email qu'on va chercher à récolter. Alors pour moi c'est très simple, j'ai deux stratégies. La première en fait c'est que je mets en place une adresse email pour me contacter. C'est une adresse générale, c'est une adresse générale, c'est-à-dire c'est une adresse à mon nom, elle est nominative, mais elle ne fonctionne pas en direct sur ma boîte mail. C'est-à-dire j'ai une boîte pour tous les jours, et puis j'ai une boîte secondaire que je vais mettre plus ou moins publiquement en place, et qui va permettre notamment aux gens qui ont envie de me contacter de m'envoyer un email. Par contre, en général, ça va être pour me transmettre des informations. Alors, ces informations sont froides. À ce moment-là, c'est du mailing simplement, et souvent, c'est pas personnalisé, donc c'est sans intérêt. Ou alors, elles sont tièdes. Et elles méritent d'être traitées. Ou alors, elles sont chaudes. Ça veut dire qu'il y a tiède. Ça veut dire pour moi que elles sont intéressantes pour moi. Il y a eu un échange, etc. Mais en même temps, c'est du préformaté. Ou alors, du 100% personnalisé. Ça, c'est du contenu chaud pour moi. C'est-à-dire que il y a vraiment une relation qui se crée avec un échange complètement associé à ce qu'on s'est partagé, etc. Et là, effectivement, il y a un potentiel. Alors, en fonction de ce potentiel, moi, je vais décider, justement, de me mettre en communication avec la personne en répondant avec mon adresse de tous les jours, ou pas. Et à partir de là, automatiquement, je fais la sélection. Ça, c'est dans le sens de la réception des emails. Par contre, pour obtenir les emails, c'est un peu le même principe. Au final, en fait, on peut très vite demander à quelqu'un, tiens, donne-moi ton email. Chacun va se protéger un petit peu des spams et compagnie. Donc, il s'agit de demander à la personne si on peut la mettre dans une mailing list. Après, s'ils sont des clients qui nous connaissent, on peut le faire un petit temps. Mais il faut pas s'attendre à être lu si on n'a pas obtenu un accord explicite par rapport à ça. Donc il faut pas être trop gourmand à ce niveau-là. Maintenant, si on fait une campagne de marketing ou de publicité ou une campagne de com au sens large sur LinkedIn, moi ce que j'ai en fait c'est un algorithme qui me permet de faire avec des filtres différentes sélections et recréer avec des permutations les emails des gens dans les entreprises, puisqu'on a accès au nom d'entreprise, donc on sait retrouver le domaine quand il y en a un, et puis on peut vérifier comment et la syntaxe de l'email et contacter la personne par email. Alors ça c'est vraiment à minimiser, c'est vraiment pour lancer une campagne. Maintenant c'est encore mieux quand il y a un lien chaud derrière. S'il n'y a pas ça, très souvent ça va passer à côté. Maintenant on n'est pas obligé de le relier, hein. On n'est pas obligé de relier ça à la relation, etc. Mais quand c'est le cas, je pense que c'est important d'en tenir compte aussi, que chacun aime recevoir finalement les emails qu'il est prêt à recevoir et qu'il a peut-être demandé à recevoir ou qu'il s'attend à recevoir, alors que en réalité, quand on envoie de la publicité, finalement on engage juste de la visibilité, souvent préformatée, pas personnalisée, et ou en tout cas très peu, et du coup c'est pas toujours très très bien perçu. En tout cas moi personnellement, un tiers des mails que je reçois sont des spams, ça fait quand même beaucoup de monde, et moi quand je vois des gens avec qui j'ai eu un échange peut-être de quelques lignes et qui se permettent déjà de me mettre dans leur mailing list sans me demander leur accord, sans me demander mon accord, je trouve ça un peu fort. La plupart du temps en fait il y a rien qui dit en fait que ça m'intéresse vraiment. On essaie un peu de me fourguer un truc, et donc ça se posait en tant que vendeur. Donc toujours poser la question, je pense que c'est important quand on a un lien chaud, et puis quand c'est pour partir d'un contact froid, et bien là c'est du mass mailing. Il s'agit d'être une opportunité et pas d'insister trop, parce que sinon de toute façon ça passera pas les filtres, et il y a plusieurs filtres. Il y a le filtre de l'anti-spam d'une part, et puis il y a le filtre humain aussi, comment est-ce qu'on est perçu par rapport à la personne avec cette proposition, est-ce qu'il correspond à leurs besoins, etc., est-ce qu'on a bien ciblé et compagnie. Donc voilà, tout ça c'est un travail de réflexion, il faut éviter de tomber dans les pièges. Sinon, effectivement, on peut un peu se griller. Maintenant, à partir du moment où on est vraiment dans une relation authentique avec les gens, se griller, ça devient difficile, à moins de partir en vrille et commencer à faire des conneries. Tant qu'elles sont assumées, à la limite, ça passe. Mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, effectivement, on risque de perdre des liens sur notre réseau. On va pas aller jusqu'à faire des comportements tordus, à supprimer des gens de notre réseau ou être supprimé, probablement pas. C'est pas comme Facebook, où on est content, pas content. Mais ici, vraiment, il y a quand même une dynamique dynamique un peu, on va dire, on se comporte avec un petit peu de bienveillance quand même. En tout cas, il y a de la diplomatie. Voilà, on essaie en tout cas d'être diplomate. Et dans cette diplomatie, ben il y a le respect de l'autre forcément. Et donc, on va pas nécessairement chercher à bousiller une potentielle relation professionnelle, même si on n'est pas tout à fait convaincu qu'il y ait un débouché. Donc voilà, ça veut dire aussi que là, il y a un travail à faire. Parfois, ça peut être nécessaire de supprimer des gens dans notre réseau simplement parce que il y a eu un conflit et que finalement, ça n'a plus de sens de rester en contact. Parfois, c'est même mieux comme ça. Et puis, pour d'autres personnes, effectivement, moi, je me souviens, à un moment, je privilégiais en fait la qualité de mon réseau à la quantité. Et donc, pour moi, c'était vraiment important d'être en lien uniquement avec des gens avec qui j'avais un contact réel. Et oui, au début, c'est important, mais à un moment, on peut pas tout gérer. À un moment, on a besoin de visibilité, on cherche à en avoir, et forcément, on travaille sur le principe d'opportunité, et on met en place une communication qui va avec ça. Ça permet de générer des nouveaux liens, mais ça sera jamais la même chose que du contact visuel où on se rencontre vraiment autour d'un espace de rencontre dans le cadre d'un networking, etc. Et ça, pour moi, c'est une autre dimension qui a aussi ses complexités. Je vais en parler demain, justement, parce que c'est le salon Digital First. J'avais fait un podcast il y a 3 semaines, si ma mémoire est bonne, à ce sujet-là. Donc, il y a quelques personnes que je vais rencontrer sur place. Si vous voulez vous joindre, vous n'hésitez pas. Et puis, je vous expliquerai, en fait, comment je vois les choses par rapport au démarchage, notamment, puisque finalement, en fait, il y a un salon avec des gens qui sont en train de démarcher des clients. Et puis, nous, on vient pour faire du réseautage B2B. Donc, forcément, pas nécessairement, peut-être que c'est la recherche d'un emploi, mais on vient avec une demande. Or, finalement, venir avec une demande qui n'est pas en lien avec leur offre, souvent, ça peut être très mal perçu. Et donc, il s'agit de mettre en place des filtres à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai des filtres assez clairs, assez puissants. Maintenant, chacun, en fonction de ses besoins, va choisir ses filtres. Mais c'est pas le sujet du jour. Je reviens là-dessus demain. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis, à demain jeudi, pour le prochain podcast. Ciao.